Descartes et la politique. On pense souvent que Descartes n'a rien écrit au sujet de la politique. Il n'est pas l'auteur de traités comme Hobbes ou Spinoza, pas non plus de considérations suivies sur le droit naturel comme Grotius ou Pufendorf. Les réflexions politiques contemporaines ne le mobilisent pas, ou vraiment de manière très très insignifiante, y compris lorsqu'elles recourent pourtant à des auteurs philosophiques de l'âge classique. Toutefois, ça ne signifie pas que Descartes ne se soit pas du tout intéressé à la politique. De nombreux textes, moins officiels que ceux qu'on consulte généralement, discutent ainsi de questions politiques et des relations entre les hommes en société. Ces hommes, dans ces textes, sont conçus comme des bois tords et noueux. Descartes y discute Machiavel et Hobbes, le Hobbes politique l'intéressant apparemment bien davantage que le Hobbes métaphysicien. Ces textes peuvent ainsi nous aider à dessiner les contours d'un Descartes réaliste, pragmatique, lorsqu'il considère le comportement le plus fréquent des hommes en société, ainsi que celui de leurs dirigeants, mais également, d'autre part, un Descartes soucieux de valoriser ce qui, en l'homme, préserve et exprime sa subjectivité, en lui-même et en autrui, au sein de l'État. Le cœur de ce qui pourrait être désigné comme la conception cartésienne de la politique, en ce sens réaliste, est la passion d'estime. Car les hommes, qu'ils soient princes ou sujets, n'ont pas besoin d'être intrinsèquement justes ou charitables, mais seulement d'être estimés tels au sein de l'État. Cela leur permet en effet, d'une part, de passer pour charitables, justes, etc., donc d'accroître par contre-coup leur estime d'eux-mêmes, et cela leur permet, d'autre part, de susciter vertueusement en autrui le même type de comportement. La prise en considération des passions et même des humeurs des hommes se traduit ainsi, notamment dans la correspondance avec Élisabeth, par tout un travail sur la notion d'intérêt que les hommes ont à se comporter de manière vertueuse les uns avec les autres au sein de l'État. Toutefois, ces considérations pragmatiques ne sauraient constituer le fin mot ni le mot de la fin d'une politique authentiquement cartésienne. Il existe chez Descartes un rempart absolu contre toute forme d'abus de pouvoir ou de dilution de la subjectivité dans le communautarisme. Ce remède, c'est la générosité. En quoi consiste la générosité ? En la capacité que chacun d'entre nous détient de s'estimer pour la seule cause qui le rende véritablement digne d'être estimé, c'est-à-dire le bon usage de sa liberté. On retrouve la passion d'estime dont il était question tout à l'heure, mais en un autre sens, puisqu'elle est cette fois fondée sur une connaissance de la juste valeur de la personne en question. Cela n'entraîne en rien une conception atomiste ou solipsiste de la subjectivité au sein de l'État. Au contraire, l'actualisation de la générosité désigne la condition de sa reconnaissance en tout autre être humain. Il s'agit, en bref, d'un rempart contre toute forme de mépris. En conclusion, on pourrait se demander quel enseignement politique on pourrait tirer de la théorie cartésienne aujourd'hui. La prise en considération conjointe du champ variable des passions humaines et de ce ressort formidable que constitue la générosité nous offre des clés théoriques particulièrement fortes pour penser le fonctionnement contemporain de nos démocraties et la place qui est faite ou non dans ces dernières au développement des subjectivités.